non mais j'ai pas de souci, hein. Non, mais au contraire, je pense qu'il faut arriver à contrôler le crédit et à éviter les bulles qui sont dramatiques. Je dis juste que ça demande un courage ou de la Banque centrale ou des pouvoirs politiques qui, pour le moment, ne sont pas vraiment là.
Non seulement ils n'ont pas eu le courage de freiner, mais en plus, ils ont incité.
Ouais. Donc il y a une question sur les subprimes, en fait, aux États-Unis. Oui, les subprimes, c'est un système un peu fou, complètement irresponsable. Et à mon sens, exemplaire du financiarisme où vous avez un système qui déraille complètement pour faire beaucoup de bénéfices à court terme et qui entraîne une faillite à moyen long terme. C'est un des axes d'analyse de cette crise, c'est de se dire que vous avez un système qui privilégie, pour différentes raisons, systématiquement le court terme et l'individualisme plutôt que le long terme et l'intérêt général. Alors, je vais prendre monsieur après vous.
En fait, c'est peut-être le moment d'expliquer quand même, pour, quand on est dans cette création monétaire, la valeur relative de la monnaie scripturale par rapport à l'argent des gens.
Je sens que vous allez illustrer mon propos. Non. Alors, en quoi c'est une valeur relative?
C'est-à-dire que si on parle de l'argent des gens, parce qu'on essaye, nous, de comprendre ça, suivant les chiffres, on dit que... Alors, ça peut être un jeu de dire combien l'argent des gens représente dans le monde de la masse monétaire.
Alors, attendez, on va revenir tranquillement sur quelque chose. Quand on parle de ça, il faut faire attention à ce qu'on appelle argent, ce qu'on appelle monnaie, ce qu'on appelle valeur, richesse, il y a un peu tout et n'importe quoi. Moi, je fais en sorte de ne parler que de monnaie. Donc, les monnaies, c'est les machins qui nous permettent de faire vos courses à Carrefour. Sinon, on n'en sort pas. Donc, votre question, c'est... vous dites notre argent. Alors, c'est quoi notre argent? Il y a des vraies questions sur la monnaie. Comment je mesure la monnaie? Alors, il y a quoi dans la monnaie? Évidemment, il y a des pièces de monnaie. Un billet de banque. Un compte bancaire. Votre compte bancaire, votre compte courant. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle généralement la masse monétaire M1. Premier agrégat, on considère que ça c'est la vraie monnaie, c'est celle qui est accessible, à laquelle vous pouvez payer. Après, on peut dire, mais il y a des choses plus larges. Votre livret A, c'est la quasi-monnaie, parce que c'est liquide tout de suite, et vous pouvez le transférer, mais il faudra toujours le transférer dans la masse monétaire M1. Et puis vous avez des formes aussi d'obligations, de SICAV court terme, qui sont des formes élargies, ce qu'on appelle les masses monétaires M2, M3. M3 étant une forme un peu plus large, qu'on appelle masse monétaire par rapport aussi à la monnaie. Donc, difficile de savoir ce que la monnaie, c'est quelque chose qui se balade un peu là-dedans. Votre appartement, c'est votre richesse, c'est pas de la monnaie. On comprend bien que c'est pas liquide, donc vous pouvez pas faire vos courses avec. Et pourtant, il y a bien une richesse très importante là-dedans. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'est de la monnaie, qu'est-ce qu'il n'en est pas, et plus on remonte, plus on peut aller loin. Sur la monnaie, donc après, quand vous me parlez de votre argent, vous me parlez de quoi? De la monnaie qu'on a en général. 90% de la monnaie, c'est les comptes courants qu'on possède. Et donc c'est la monnaie scripturale. Alors aujourd'hui, la monnaie, ou la monnaie électronique maintenant encore, qui est une forme de monnaie scripturale, elle est complètement dématérialisée, la monnaie, aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble de nos échanges. Mais en revanche, elle a la même valeur que toutes les autres monnaies un jour donné. Donc c'est pour ça que je n'ai pas bien compris votre question, en fait. Qu'est-ce qui vous...
On dit que par rapport à la masse monétaire mondiale, je suis bien sur la monnaie.
On est obligé de prendre le monde ou on peut prendre la France déjà pour...
Non. Peu importe, parce D'accord. que les chiffres, quand on dit effectivement la monnaie qui circule, semble-t-il, et il y a des chiffres différents, disent que c'est 8% effectivement de la totalité de ce qui circule. C'est-à-dire que nous, quand on revient, semble-t-il, alors il y a des chiffres qui vont jusqu'à 3%, donc moi j'ai lu des choses là-dessus.
Non, mais vous êtes sûr que vous ne parlez pas ici plutôt de la valeur des échanges ou de la taille de l'économie financière plutôt?
Bien.
Je pense que c'est ça. D'accord, mais jusque ça, oui, on est ça, d'accord.
Non, mais aussi, justement, pour bien reproportionner, on essaye de le ramener à notre propre vision d'une espèce d'économie dans laquelle nous, on pourrait mieux comprendre les différents échanges. Quand on se repositionne par rapport à ces échanges internationaux, cette valeur est très faible.
Non, mais elle est très faible parce que d'ailleurs, vous mélangez ce qui est de la monnaie et ce qui n'en est pas. Par exemple, je vais illustrer, l'assurance vie. C'est beaucoup plus que la monnaie qui circule dans le pays. Bon, c'est votre épargne à vous, et de l'épargne, c'est pas de la monnaie. Et puis derrière, vous avez aussi toute la sphère après de l'économie financière, des produits dérivés divers et variés, qui vous créent une forme de valeur ou de richesse. Et dans ce cas-là, on est dans la richesse, on n'est plus dans de la monnaie. mais il n'y a pas vraiment le lien entre les deux, sur 3%, 8, 12. C'est le problème, c'est la taille du machin par rapport à l'économie réelle, surtout, plus que par rapport à la monnaie en tant que telle. Donc voilà, mélangeons pas trop ce qui relève de l'épargne et ce qui relève de la monnaie.
Et je reviens sur un propos précédent, quand vous disiez qu'à un moment donné, on reviendra sur faire payer les gens, d'une manière ou d'une autre, sur l'épargne. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement...
Non, on est bien d'accord que j'ai parlé de quelques gens. Hein.
Oui, non,
mais...
Les 10% de...
Mais...
J'ai compris ça.
D'accord, c'est important. Hein. Non, mais... Parce que sinon, on fait peur à tout le monde très vite. Hein. Que sinon, vous allez voir la petite mamie qui a 5000 euros d'épargne et vous lui dites, oh là là, vous allez voir, vous n'allez pas être remboursé. Alors que tous ceux qui ont moins de 50 000 ou 100 000 euros de patrimoine financier seront tous remboursés. Il n'y a pas de problème. C'est tellement peu par rapport au total. N'inquiétez pas que ce sera remboursé.
J'ai compris ça. C'est pas ça le propos. C'est est-ce que le volume... Justement, est-ce qu'il n'y a pas une disproportion?
Oui, il y a une disproportion entre
les épargnants, les 10% là, même ces 10% là, par rapport à la totalité. C'est là
qu'on ne
voit pas la dette qui se rééquilibre sur même les plus riches.
Oui.
Je me demande si cet écart n'est pas devenu tel que même ça, c'est. Je vois pas comment...
Comme l'a très bien écrit le LIP il n'y a pas longtemps, voilà, vous avez 15 000 milliards d'euros d'actifs fantômes qui vont disparaître. Ouais, c'est simplement ça. Donc, on se rend compte que faire disparaître 15 000 milliards d'euros, ça va être un peu douloureux. Les 15 000 premiers ont déjà disparu avec l'explosion des bulles diverses et variées. Il y a la deuxième, mais celle-là va toucher sans doute plus de monde. Il y a un monsieur au fond qui attendait depuis un moment. Ou une dame, je ne sais pas. Vous battez pas, il n'aura pas tout le monde. Ouais.
Et je me posais la question de savoir ce qui incitait les dirigeants à raisonner sur le long terme alors qu'au court terme ça leur bénéficie amplement au quotidien. Pourquoi ils raisonneraient sur le long terme en fait?
Ah oui, mais pour moi ils ne raisonnent pas sur le long terme, mais c'est bien de ça dont on meurt en fait.
Pourquoi ils le feraient?
Je suis d'accord avec vous, ils ont aujourd'hui aucune raison de le faire.
Donc, a priori, oui.
Oh bah, j'aime pas le mot, attendez, on est foutu. Je vous ai dit, il va y avoir une claque qui va tomber. C'est tout. Mais une claque, hein. C'est pas dit que vous allez mourir non plus dans la trop de souffrance et vous allez être maudit sur cette génération non plus. Ça ira bien après.
Actuellement, quand il y a un problème, ça finit par être ceux qui en bénéficient pas qui payent pour ceux qui en bénéficient.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais après, quelque part aussi, une population est d'un côté responsable et de l'autre subit ses élites. Alors, si vous envoyez des gens pas compétents gérer votre pays, ça ne va pas très très bien finir, et franchement, hein, j'en suis désolé. Hein. Mais franchement, si de même, si vous vous mettez à élire le pilote de l'avion et que vous mettez quelqu'un qui n'a pas son brevet de pilote, c'est des petits pépins en vue.
C'est ce qu'un regret, ça a été le cœur d'Argentine.
Bien sûr. Là, vous m'amenez sur des questions très, très, plutôt économiques, mais sont intéressantes. Hein. Non, vous attendez, c'est pas du tout, c'est une question fondamentale dans ce qui se passe. Bon, je vous donne mon petit avis. On est rentré dans une phase où on va connaître des crises régulières, plus ou moins importantes, qui ne sont pas forcément dramatiques, qui sont surmontables, mais qui nécessitent justement de gérer le pays à long terme. Et aujourd'hui, on voit très bien que le système démocratique actuel n'est pas capable de gérer ça. Donc, un système qui n'est pas capable de gérer des crises.
Et le cas
c'est pas un problème du tout de quinquennat. C'est pas un problème de... Enfin, à mon sens, hein. Mais faites un vingt-quennat, vous verrez, ce sera pareil. Quoi. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Ouais, c'est un peu le drame, parce que c'est d'un côté, ça peut être un peu vrai. Et il faut faire bien attention à ce qu'on entend dans les médias. Moi, j'étais à un débat il n'y a pas très longtemps avec un... Je tairai le nom avec un journaliste et le... Alors ça m'a fait rire, ce mec est un peu couillon. Mais... Et le mec me dit à la fin, évidemment en antenne, hein, ce qu'il nous faudrait là, c'est faudrait plus d'élections pendant 10 ans, quoi, pour qu'on puisse faire toutes les réformes, là, sinon les gens ils en voudront jamais, on n'y arrivera pas. Un propos qui m'a laissé vraiment dubitatif, parce que ça renvoie, je dirais, de la considération du peuple. Je pense que je suis tout à fait capable de gérer les choses, en tout cas beaucoup mieux que ces pseudo-élites. Ça m'a d'un côté aussi fait rire, parce que je me suis rendu compte que le mec ne se rendait pas compte de ce qu'il disait, parce qu'à la rigueur, pourquoi pas faire ça? Ok, imaginons, on fait un gouvernement, élu pour 10 ans, et il va faire ce qu'il veut, il n'y a plus d'élection. Le premier truc qu'il doit faire, parce qu'évidemment, il avait en tête, Europe fédérale, machin, sauver l'euro. Le premier truc qu'il doit faire, c'est de piquer la moitié de l'épargne du dit journaliste pour l'envoyer à la Grèce, au Portugal et en Espagne pour rééquilibrer les comptes. Enfin, voilà, il y a un vrai problème de rééquilibrage des comptes. C'est ça la première mesure qu'il faut faire si on veut sauvegarder. Oh, peut-être qu'on y arrivera, mais c'est ça la première mesure. Et j'ai très bien vu que, mec, sinon, ça lui était même pas venu à l'idée. Et que pour lui, c'est, il n'y a qu'à signer un accord européen et puis on prend le Parlement, on valide ça, et puis terminé, on s'assoit, on repart comme avant, on a réglé le problème. Alors que le seul problème, c'est d'avoir de l'argent et de le faire, et de faire circuler entre les pays. Mais vous entendez aussi souvent dans les médias, qu'est-ce que je commence à entendre, c'est là aussi sur le temps de la démocratie, c'est pas le temps des marchés. Est-ce que vous entendu? On va supprimer la démocratie, parce qu'on ne va pas toucher au marché quand même, il ne faut pas déconner. Et donc c'est extrêmement, extrêmement inquiétant. Et pour en revenir au début du propos, on a un système démocratique qui finalement, il est né quand? Il est né autour des années 1800, 1789 chez nous, un peu plus tard dans les pays aux alentours, un tout petit peu plus tôt aux États-Unis. Ça correspond exactement au décollage économique et à la révolution industrielle. Donc si je regarde depuis 1800, on a eu une croissance et un niveau de vie qui augmente. Sur l'année, la démocratie a suivi. La question, c'est qu'est-ce qui se passe en tangente, voir s'il faut que ça baisse un peu, sans que ce soit la misère noire. Par exemple, je vois un beau 4x4 là-bas qui est en train de passer dans Paris. On considère qu'un 4x4 dans Paris, c'est un peu n'importe quoi, que c'est en train de, un, polluer et de, deux, cramer du pétrole, alors que tout de même, il n'y en a pas des masses, et que c'est un peu con d'aller gaspiller ça de cette façon-là, et qu'on pourrait très bien dire au gars, va te prendre une Twingo, parce que pour aller pour faire 500 mètres, ça ira très bien. Oui, c'est moins sympa que ça ou une Mercedes, mais ça rend le même service. On est face à une vraie mutation et on doit passer dans un monde de rareté, donc on doit passer dans un monde d'effort. Je vais vous raconter une petite parabole de... Je vais essayer de retrouver son nom. Isaac Asimov, qui avait une très, très, très jolie petite parabole et parfaitement juste. C'est la parabole de la salle de bain. Et donc, dans cette parabole, vous imaginez que vous avez un appartement avec deux salles de bain. Et vous avez deux colocataires dedans qui sont très contents de leur bel appartement et de leurs deux salles de bain. Et chacun fait ce qu'il veut, il s'en sert quand il veut. Et voire même, ils sont d'accord pour rédiger la déclaration des droits de l'homme et de la salle de bain pour expliquer que tout le monde a le droit d'aller à la salle de bain quand il veut, que c'est un droit fondamental. Puis tout d'un coup, vous vous dites que vous avez 10 colocataires dans le même appartement, toujours que deux salles de bain. Et là, vous vous rendez compte que votre jolie déclaration, elle ne sert plus à grand-chose, parce que si chacun fait ce qu'il veut, vous allez avoir deux, trois petits pépins tous les matins à l'heure de pointe, et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc ça implique justement de faire certains efforts, de planifier un minimum pour dire que toi, tu as la salle de bain de 7h à 7h30, toi, 7h30, 8h30. En tout cas, ça ne peut plus être aussi bien qu'avant, c'était beaucoup mieux avant. Mais en attendant, si on veut que ça marche, ça oblige à avoir une certaine forme de régression individuelle pour que le collectif puisse continuer à fonctionner. Et on est un peu rentré dans cette phase-là, et on se rend compte aujourd'hui que pour différentes raisons, nos systèmes démocratiques ne sont pas capables de ça. Vous me parliez des élus tout à l'heure, mais on peut être sévère avec les élus, bien sûr. Mais d'un autre côté, on ne peut pas attendre d'élus qu'ils se... entre guillemets, suicide politiquement pour l'intérêt général. Enfin, on ne peut pas juste dire ça, on ne peut pas juste dire, tiens, on a un système qui marche bien le jour où j'ai des symptômes qui décident d'aller prendre en charge l'intérêt du pays pendant 5 ans. Donc pourquoi ça ne marche pas bien, à mon avis, de ce que je peux voir, parce que j'en vois beaucoup, ça fait pas mal d'années que je regarde et que je réfléchis à ça. Mais un des problèmes pour moi, c'est la professionnalisation justement de la politique. Vous ne pouvez pas avoir des gens dont c'est le métier et te dire, mais c'est pas grave, hein, tu n'auras plus de métier dans 5 ans parce que tu vas prendre des décisions courageuses. Je veux dire, qu'ils feraient autour de nous? Non, vous n'avez pas manifesté devant votre employeur en disant, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous êtes en train de faire, cher employeur. Et, vous évitez quand même, c'est un minimum d'auto-préservation. Donc déjà, le fait d'avoir une classe politique qui ne pense qu'à la prochaine élection, et ça, je l'ai vu, mais il n'y a pas... Je l'ai vu il y a 15 jours. J'étais à un endroit, j'ai vu des gens plutôt socialistes qui venaient de gagner un beau discours comme ça. Écoutez, moi, ils m'ont convaincu. La conclusion a été, et maintenant un seul objectif, 2017. Il faut gagner en 2017. Dire essayer de nous faire survivre là dans les 2 ans qui viennent, c'était pas l'objet. Mais ça se comprend aussi, quelque part, c'est leur métier. Ils n'ont pas envie de se retrouver sans métier dans 5 ans. Je ne leur jette pas la pierre à ce niveau-là. Enfin, parce que quelque part, c'est nous aussi qui acceptons que le système fonctionne de cette façon-là. Donc c'est pour ça que je suis très clairement, de façon assez acharnée, pour la limitation dans le temps des mandats. Enfin, ça pensait que déjà deux mandats de députés dans la vie, c'est déjà pas mal, hein, ça fera de la place pour les autres. Et deux, déjà peut-être que ça incitera un tant soit peu à ne pas rentrer dans ce que Jean-Louis Bourlange aussi dit très joliment, que l'élection, c'est tout l'honneur de la démocratie, la réélection, ça en est l'appelé mortel, et c'est assez vrai. Bon, c'est loin d'être miraculeux, ce genre de choses. Le deuxième axe aussi de réflexion qu'on peut avoir, c'est sur la façon dont on sélectionne les gens. Et je suis aussi férocement contre le scrutin uninominal à deux tours. Parce que ça oblige... Parce que, pour le coup, c'est extrêmement dur de se faire élire député. Je vais être assez brutal, c'est un travail de chien. Vous voulez être élu député, il faut quasiment tous les soirs, pendant 10 ans, aller serrer des mains dans votre quartier non-stop, de plus avoir de vie personnelle, de plus avoir de vie familiale. Enfin, sauf si vous êtes le grand parachuté, mais enfin, OK, il y en a 20, hein, il y en a 570 autres qui n'ont pas fait ce parcours-là. C'est-à-dire, ça demande une volonté qui est proprement hallucinante pour se faire élire. Donc, du coup, tendance à penser, on a vu un certain nombre, ça oblige à avoir un état d'esprit assez particulier. C'est-à-dire qui ont un ego surdimensionné, qui ont un besoin d'amour, de reconnaissance parfois hallucinant, alors que ce soit des lecteurs ou que ce soit sur des axes plus personnels, mais enfin, c'est évidemment lié. Très étonnant de voir ça. En fait, vous, évidemment, on en connaît tous un peu des personnes comme ça, mais donc là, vous avez choisi l'élite politique uniquement dans cette petite frange de la population qui est prête à tout pour se faire élire, pour prendre le pouvoir, pour le garder. Et c'est vrai que des scrutins plus de type proportionnel, et je ne parle pas juste du scrutin en tant que tel, juste de dire que bah, vous pouvez avoir une liste ou le parti politique, parce que dans tous les cas, de toute façon, vous ne serez jamais élu sans parti politique dans un système comme dans l'autre. Au moins, le parti politique, il peut dire, bah, tiens, je vais peut-être prendre deux philosophes, trois professeurs, deux chefs d'entreprise. Voilà. Donc c'est un jeu peut-être un peu particulier, mais en attendant, vous pouvez avoir une diversité de caractères, de parcours beaucoup plus large que ce que vous aurez jamais. Aujourd'hui, dans le système, vous aurez zéro ouvrier, vous aurez zéro employé, vous aurez aucun moins de 30 ans, sauf si vous avez un grand-père qui a qu'un œil. Vous arrivez à être ridicule aussi. Donc vous avez un vrai biais aussi sur le type de personnalité que vous sélectionnez. Voilà, je dis pas que tout ça et c'est des solutions qui résolvent tout, loin de là, mais en tout cas c'est des solutions qui devraient, des réflexions qui devraient être beaucoup plus fortes, et un système beaucoup plus proportionnel aussi, ce que je l'avance dans le livre d'ailleurs, une proposition sur un système j'appelle un peu proportionnel majoritaire entre guillemets, en tout cas un système qui à la base est proportionnel et où vous déformez quelque part le résultat pour avoir quand même une majorité à l'intérieur, mais où en gros ça reste quand même très proportionnel, donc ça incite à avoir plusieurs partis. Évidemment, si vous n'avez que deux partis en gros dominants, ils vont se partager le pouvoir un coup l'un, un coup l'autre, et donc ils ne défendront pas grand chose, alors que vous avez des systèmes où il y a plus 5, 6 parties, vous pouvez avoir chacun qui a sa spécificité, qui s'allie s'il y a besoin, mais déjà c'est un peu plus compliqué, c'est moins monolithique. Voilà, c'est quelques axes. Bon, peu importe, après à vous d'avoir les votes, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il me semble important d'avoir une réflexion sur le système démocratique, parce que le nôtre aujourd'hui n'est pas du tout adapté à des problèmes, à des crises. Et donc soit il va falloir l'adapter férocement pour que ça marche, soit il n'y aura plus de démocratie. Enfin, ça ne rêvons pas, c'est aussi dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, c'est assez flippant. Mais le côté, bah, regardez les Chinois, ils s'en sortent plutôt bien, c'est loin d'être accessoire. Ou regardez la Grèce, où vous avez un radicalisme politique qui monte en flèche d'un côté comme de l'autre. Bon, ça vous laisse en voix, mais je sais pas, vous pouvez réagir, hein, c'est une petite idée, j'ai pas de...
Non, je sais pas, en fait...
Ah, mais par contre, il avait levé la main avant, donc... oui, ça, pas de main, pas de chocolat, il n'y a pas de parole, en fait.
Je vais changer un tout petit peu le sujet, je sais pas si vous avez compris.
Eh bien, posez vos deux questions, et puis on verra.
D'une manière très pratique, vous avez dit quelque chose que je pense est tout à fait vrai, toutes les promesses ne seront pas payées à terme. Et moi, j'ai à côté de moi une baraque qui est plutôt pas mal. Et je me dis, si je pouvais faire une promesse et puis pensant que dans 20 ans, d'ici là, voilà, ma promesse ne vaudra plus grand-chose puisque plus aucune promesse. Donc, quelque part, est-ce qu'à titre individuel, est-ce qu'il n'y a pas un peu de cynisme à avoir et de se dire, bah, finalement, pourquoi est-ce que je ne ferais pas finalement ce que tout le monde va faire, ce qui amplifie le phénomène, évidemment.
J'ai pas bien compris, vous voulez quoi? Vous endettez auprès d'une banque qui va faire faillite? Ouais, peut-être, c'est un bon plan. Hein.
Non, voilà,
n'hésitez pas, hein, si vous pouvez,
non, mais vous voyez,
dans le doute.
commence à rentrer dans un mode de raisonnement où on peut être extrêmement cynique.
Non, ça ne marche pas, les dettes, elles sont, même si la dette, la forme de faillite, les dettes sont
rapportées
sur...
Ça dépend, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malheureusement, pour les deux ans qui viennent, il vaut mieux avoir des dettes que du patrimoine important.
Là, c'est... La question, en fait, c'est est-ce que vous avez des recommandations à faire à titre individuel, puisque c'est bien de penser pour la société, il y a aussi la question très individuelle de nous, voilà.
Alors, acheter du sucre, de la farine, des trucs.
Non, mais de manière...
Non, je plaisante.
De manière un peu philosophique, pas seulement juste pour préserver notre petit patrimoine, je veux dire, est-ce qu'il y a des choses...
Et vous croyez que c'est une explosion quand vous dites acheter du...
Non, je plaisantais. Je vous répète, pour moi, 80% de la population n'a vraiment aucun souci à se faire, mais évidemment, on est en train de leur faire croire le contraire pour qu'évidemment, ils acceptent tout et n'importe quoi. C'est une manipulation assez évidente pour préserver des patrimoines fictifs, pour la plupart d'ailleurs, non... pas vraiment mérité. Enfin, en tout cas, il y a une vraie question aussi sur des formes d'héritage et sur des formes d'inégalité de patrimoine qui sont tout de même considérables. Quand vous l'avez gagné, ça va. Quand c'est votre arrière-grand-père qui l'a gagné, bon, jusqu'à quand, jusqu'où et jusqu'à quoi ? Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait, je crois que c'était là-bas, de l'inflation et de solutions par l'inflation. Il n'y a qu'à faire tourner la planche à billets. Enfin, on est d'accord qu'on est face à une idée. Soit on fait tourner la planche à billets et ça a des chances importantes de déclencher de l'inflation, dont on peut discuter du niveau, mais enfin, ce ne sera pas 5%. Parce que si c'est que 5% d'ailleurs, il ne faut plus payer d'impôts tout de suite, il n'y a qu'à retourner la planche à billets s'il n'y a pas de conséquences. Soit c'est ne pas rembourser les plus aisés. On comprend très bien que les derniers font tout ce qu'il faut pour nous inciter à aller plutôt dans la première voie, mais la première voie, moi je vois bien ce que j'ai à y perdre. Je vois assez peu ce que j'ai à perdre dans notre hypothèse. Moi, je n'ai pas 500 000 euros de patrimoine financier qui dort tranquillement investi en obligations publiques grecques, espagnoles ou thaïlandaises. Après, chacun est aussi responsable de ses choix et de où il met son épargne.
Particularité de la situation, c'est que c'est peut-être ceux qui ont été les moins responsables qui, au final, s'en sortiront le mieux. Je vous prends l'exemple à dessein du gars qui s'est surendetté pour acheter une maison dont il n'avait pas les moyens de se financer. Si effectivement il y a une forme de désintégration, de dislocation monétaire, ces gens-là, au final, s'en sortiront.
Non, il n'y aura pas de désintégration à ce point-là, parce qu'on me disait, en effet, les dettes se reportent. Non, mais de toute façon, ce qui va lui arriver à lui, très concrètement, c'est que quand sa maison va valoir deux fois moins, il va être en faillite personnelle et il ne pourra plus rembourser. En fait. C'est ça qui va se passer, donc ce sera une perte sur la banque, pour le coup, une vraie perte de cette façon-là.
Parce que la génération de nos parents a tendance à dire qu'eux, au cours des années 70, ils ont très bonne image de l'inflation.
Bien
ils
sûr.
Ont même tendance à pousser leurs enfants à s'endetter en disant... Regarde, tu vas voir, à un moment, la planche à billets va partir et puis tu vas payer ton
maison
en Allemands.
Ouais.
C'est un peu ce que je propose, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à miser sur le pire avenir, quoi?
En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, typiquement, à titre annuel, je trouve que l'immobilier est trop cher, donc je n'ai pas acheté, sauf que tous mes amis qui l'ont fait se sont enrichis de manière incroyable. Et je me dis, c'est quand même incroyable.
Ça ne marchera pas.
Ah ben, pourquoi pas, je sais. Non, parce que c'était
mais c'est ce phénomène-là, c'est comme du Madoff. Dire Madoff, ça a duré longtemps. Les premiers qui sont arrivés chez Madoff, dire ils ont gagné 5 ou 10 fois leur mise initiale. Juste, faut pas arriver à la fin du Madoff, en fait, parce que là, pour le coup, vous perdez tout. Mais évidemment, pendant un certain temps, ça marche. Donc vos amis qui ont fait des plus-values, ok, c'est très bien. Si le prix de l'immobilier finit par baisser, en tout cas, comme ça me semble relativement probable, de 30, 40, 50%, j'espère qu'ils n'ont pas emprunté 90% de la valeur de l'immobilier en question, parce qu'ils ne pourront jamais le rembourser. Enfin, en tout cas, déjà, ils ne sont pas prêts de pouvoir le revendre. Non, je ne suis pas sûr déjà, ça pour commencer, parce que ça part sur des niveaux qui sont très élevés à Paris aussi. Qu'est-ce qui va devenir de l'immobilier dans les 5 ans qui viennent? De toute façon, on voit très bien, ça sera une prochaine série si j'arrive à la faire, ce qui n'est pas évident, sur l'immobilier, qu'on est en train de replonger de façon sympathique en ce moment et qu'il est assez probable que le pic historique ait été atteint et qu'on aille maintenant vers une baisse plus ou moins rapide, plus ou moins lente en fonction de ce qui se passe ailleurs. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas d'évaluation et qu'il n'y aura pas d'inflation. Pour des raisons assez simples, c'est qu'on n'est plus dans les années 70 et que vous avez un État qui a un peu 2000 milliards d'euros de dette et que du jour où il y a 5% d'inflation, il n'y a plus une personne qui lui prête de l'argent et que le jour où on ne lui prête plus de l'argent, il est en cessation de paiement, mais dans la semaine. Et donc à ce moment-là, soit il va en effet, comme je disais tout à l'heure, vers de la planche à billets, il déclenche 50 ou 100% d'inflation, ce que je crois relativement peu probable, soit il restructure ses dettes. Je vous rappelle que c'est exactement ce qu'a fait la Grèce il y a 3 mois, donc un pays de la zone euro vient de faire défaut, on a déjà tous oublié, on nous explique que ça n'arrivera jamais, bien sûr, en Espagne, Et en Italie, bon, bah, très bien. On verra, mais c'est de cette façon-là que ça se résout, parce que soit vous euthanasiez vos rentiers, soit vous euthanasiez 90% de votre population. Généralement, les gouvernements savent encore faire ces choix-là.
Ça veut dire que si on est très riche, il faut tout de suite...
Ben, ça ne va pas le rester. Alors, si vous êtes très riche et que vous avez des obligations, c'est pas une très bonne idée. Faites attention après. Mais après, vous êtes responsable. Vous savez, on est en train de dire, oui, il y a des obligations, mon Dieu, c'est important, et les gens vont perdre de l'argent. Et les gens qui ont acheté de l'action France Télécom il y a 10 ans, ils ont perdu de l'argent. Les gens qui ont acheté de l'Eurotunnel en 85, ils ont perdu de l'argent. Les gens qui ont acheté en plus l'immobilier maintenant, ça allait moins. Mais enfin, ah, vous investissez, des fois ça marche. J'arrive. J'ai pas fini ma réponse. Et voilà, chacun est responsable de ses investissements. Donc, si vous avez de l'argent, tant mieux. Bah, à vous de l'investir et d'être responsable. Alors, c'est vrai qu'on vous a dit que quand c'était de l'obligation espagnole, vous serez remboursé. Bah, c'est juste que faut acheter un livre d'histoire et vous verrez que l'État espagnol, il en est déjà à 8 ou 9 faillites, et bah, qu'il fera la 10e. Comme à peu près tous les pays quand ils dépassent un certain niveau de dette. Et on voit que la décomposition est extrêmement rapide parce qu'en plus, l'Espagne était un excellent élève en 2007. Qui devait avoir 35 ou 40% de dette, et ça baissait très vite, mais évidemment, vous avez de la dette qui s'est concentrée dans le secteur privé, qui est en train de revenir à vitesse grand V du côté du public et qui va tout déstabiliser. Donc voilà, à l'investisseur d'être responsable. C'est-à-dire, c'est très bien d'avoir 1 million d'euros de patrimoine, bravo, ça se mérite tous les jours pour le conserver, donc en investissant prudemment et pas en croyant toutes les chimères de oh bah tiens, c'est on me propose 5%, mais c'est sans risque. Non, si c'est 5%, c'est pas sans risque. Il y a un risque, hein, forcément, qui d'ailleurs est pas loin d'être de... Oui, alors pardon, la question est pas finie.
La question, c'est ces gens-là, est-ce qu'ils vont pas du coup investir dans les matières premières, les terres agricoles, les trucs,
et ouais, c'est ce qui...
dans un système encore plus inégalitaire, quoi.
Pourquoi plus inégalitaire?
Parce que peut-être les richesses vont encore se concentrer sur les biens qui vont conserver leur valeur après.
Mais c'est pas possible, qui va racheter les obligations? Ah oui, non, mais après c'est une forme de détournement, effectivement, où on va essayer de faire payer au plus grand nombre pour éviter les pertes au plus petit nombre, peut-être. Oui. En termes démocratiques, c'est pas censé se passer comme ça, mais ça peut se passer comme ça. Hein. J'ai pas d'illusion non plus. Ce sera un vrai débat. Est-ce qu'on prend le risque d'appauvrir toute la population pour rembourser en partie les plus aisés? Bah, c'est oui ou c'est non. Hein. Ça se décidera comme ça. J'ai tendance à penser que ça risque en effet de pas être aussi simple que ça. Et comme j'ai tendance à dire une pensée très profonde, nous perdrons de l'argent, parce qu'il faut, il y a de l'argent qui va être perdu, et nous perdrons de l'argent que ceux qui ont de l'argent, en fait. Hein, là,
mais on est bien d'accord que du coup, là, il y a quand même une flopée de gens très riches qui se posent la question de comment ils vont reconvertir leurs obligations.
Oui, bien sûr, sans doute. Enfin, en tout cas, s'ils ne le font pas, bah, c'est pas de bol, il faut changer de gestionnaire de fortune. Mais so what,
quoi. Ça se traduit comment, là?
Pour le moment, personne ne croit qu'il y aura des problèmes. Ça se voit très bien. Le jour où ils se diront, vous verrez très vite, c'est le jour où les taux d'intérêt de la France vont monter à 15% et on va faire défaut, en fait.
Pas d'alternative évidente.
Oui, non.
Est-ce qu'on pourrait parler de l'économie sociale et solidaire avec les banques à vocation solidaire qui, en ce moment, proposent des solutions?
Oui, peut-être, oui. Mais on va en dire quoi, en fait?
Non, mais pour dire qu'il y a aussi l'avènement ou l'idée de banque éthique, de projets à vocation utile pour l'ordre, etc. Enfin,
oui, bien sûr, bah heureusement.
Des
hein.
choses, avec des structures comme le Crédit Coopératif ou la NEF qui existent.
Non, mais de toute façon, vous savez, après la claque qui arrivera dans quelques trimestres, je suis assez persuadé qu'une prise de conscience assez forte aura lieu dans la population, de toute façon, qui demandera des comptes, qui voudra changer ses structures. C'est à mon sens un peu ce qui s'est passé en 58. Je pense que le système financier sera notre Algérie moderne, qu'il faudra régler ce problème-là et qu'il faudra... J'ai un peu l'intuition que François Hollande est le dernier président de la 5e. On verra. Je pense que c'est du domaine du possible. Parce que si une claque importante a lieu, vous serez obligé de changer fortement les structures, et en particulier les structures démocratiques. On verra bien. Mais c'est loin d'être irréaliste pour moi.
Ouais.
Oui.
Crise de l'eau, etc., entre la divergence de la Chine, des États-Unis et les pays émergents. La situation paraît quand même assez noire, mais en même temps, vous avez l'air assez optimiste sur le fait qu'on va pouvoir les résoudre. Et quand on regarde l'histoire humaine, on a plutôt tendance à voir que ça, c'est plutôt, en général, avec des crises plutôt moins graves, ça, c'est plutôt mal fini. Qu'est-ce qui nous permet de penser que ça va plutôt bien finir?
Parce que pour moi, l'effacement de 15 000 milliards d'euros de dette, c'est justement le « ça va mal finir ». C'est l'équivalent dans le passé de destruction de guerre ou de destruction de patrimoine. Pas d'effondrement, mais en tout cas, voilà, cette forme... Enfin, on se rend bien compte qu'il y a 15 000 milliards d'euros qui disparaissent. C'est l'équivalent d'un tsunami ou d'un conflit armé. Bon, par chance, on a évité le conflit armé. Bon, voilà, il y a toutes les conséquences du conflit armé. Qui disent à quel niveau ? Non, d'accord, il ne faut pas être non plus sur apocalyptique. Tout dépend comment cela est géré, ça c'est sûr. Si on gère de la même façon que ce qu'on a géré en Grèce, ça vous aurez les mêmes conséquences et sans doute des choses pas très sympathiques au point de vue démocratique, au point de vue coopération entre les peuples. Bien sûr, si on se fâche fortement avec l'Allemagne pour qu'ils quittent l'euro parce que les gouvernements se rendent compte que c'est pas viable et qu'ils veulent pas emporter la responsabilité et que ce serait bien que ce soit les Allemands qui soient de nouveau frappés de cette comment dire, indignité. Oui, il va y avoir une coopération européenne qui va pas être sympathique dans les 5 ans qui viennent. Bon, ceci étant, on a recréé l'Union européenne, je vous rappelle, 12 ans après les libérations des camps, quoi. Donc, on pense qu'on peut arriver à reconstruire assez, je l'espère. En tout cas, j'appellerai ça de mes voeux, une coopération en Europe sur des bases différentes. Il ne faut pas se laisser non plus intoxiquer par le côté l'euro ou la mort, ou l'euro c'est l'Europe, et donc si on pense que l'euro ça ne va pas durer, on est anti-européen. Enfin, tout ça est assez ridicule. De toute façon, si je suis plutôt fédéraliste ou confédéraliste dans l'âme. Je pense juste qu'il faut des décennies de coopération pour construire un esprit européen qui, de toute façon, ne sera jamais celui des États-Unis, en tout cas pas tant qu'il n'y aura pas 100 ans d'histoire commune et peut-être une langue commune, donc on voit bien que ce n'est pas pour tout de suite, et que tant qu'on n'a pas ça, le premier devoir d'un fédéraliste, c'est de s'assurer que tout le monde le suit bien dans son projet, quoi. Sinon, il ne faut pas avancer. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose de vicié. Si aujourd'hui, 60% des gens ne veulent pas, à mon avis, voteraient non sur n'importe quel traité européen, il y a bien une raison. C'est que les gens ne sont pas cons, ils ont bien compris qu'on est bien loin du projet originel de l'Europe des années 50, qui avait été complètement perverti par l'acte unique européen de 84, puis par toutes les dérégulations qui ont suivi, puis par, je dirais, jusqu'à Maastricht et la monnaie unique. Enfin, quelle drôle d'idée de penser qu'on va construire un pays par de la monnaie. Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'autre chose pour faire un pays. Il n'y a pas de la coopération, il n'y a pas de la culture, il n'y a pas de l'éducation, il n'y a pas de la sécurité, il y a plein de choses. Il n'y a pas du social. C'est quoi l'apport social de l'Europe? Il n'y en a aucun. On est juste en train de dire, en gros, faut serrer la ceinture pendant 20 ans pour surtout sauvegarder l'euro. Ouais, peut-être pas aussi, quoi. C'est, en tout cas, je pense que les structures politiques ne le supporteront pas de cette façon-là. Il y en a beaucoup, il y en a qui n'ont pas parlé, peut-être. Alors.
Oui. D'accord qu'avant d'arriver sur une structuration de dette, il va falloir quand même montrer à nos créanciers qu'on a fait des efforts pour pouvoir leur dire, avant de leur dire, non, on ne peut pas vous rembourser.
Par définition, si vous êtes dans une phase de restructuration de dette, c'est que les créanciers vous font plus confiance et vous parlent plus, quoi.
D'accord, mais ça veut dire quand même que...
Vous faites ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est si vous êtes à la restructuration, c'est que vous avez échoué à leur expliquer que vous étiez sérieux. Enfin, et en tout cas, j'aime pas trop sérieux, c'est en tout cas que vous pouviez être sérieux.
Et vous pensez qu'on va pouvoir se permettre de pas faire d'efforts et leur dire...
Moi, je dis rien du tout. Je dis que tant qu'ils continuent à nous croire, tout se passera très bien.
Et la question, c'est après, maintenant, le jour où, effectivement, on a dit on ne rembourse pas la dette, on est d'accord qu'il faut s'autofinancer avec nos recettes fiscales.
Bien sûr. Ça tombe bien, ça fait 3000 ans qu'on a inventé un petit machin, ça s'appelle l'impôt. Et c'est magique. Donc, vous le levez, vous avez de l'argent, quoi. C'est comme ça. Mais ceci étant, si vous avez pris dans mon propos qu'on allait vers une période là, extrêmement facile dans les 3 ans qui viennent, je me suis mal exprimé, quoi, je suis désolé. Je n'ai pas dit que c'était l'apocalypse non plus. Et il va y avoir un retour à la réalité, tout simplement. Un retour à la réalité, et où tout le monde va voir que les promesses qui ont été faites étaient des promesses irréalistes et qu'on ne peut pas tenir. Mais tout comme 30 000 entreprises tous les ans font faillite, et donc il y a un banquier qui a mis de l'argent dans une entreprise, et 30 000 fois dans l'année, il se dit « Flûte, c'est trop tard, j'ai perdu mon argent, tant pis, so what, ça n'a pas marché, j'arrête ». Sauf que là, on est dans un système où il est impossible, enfin on voit que le système global n'est pas capable de couper les pertes. Ça se passe aussi dans le trading, par exemple. Le propre du trader, au bout d'un moment, quand c'est pas Kerviel ou quelqu'un d'autre, c'est de dire « j'ai pris des pertes, j'arrête ». tant pis, c'est trop tard, c'est perdu, je le referai. Mais j'arrête, je ne continue pas mon deal pour augmenter les pertes à terme. C'est ça, couper les pertes. Et c'est le banquier qui dit, l'entreprise, là, maintenant, elle meurt, donc elle vient me redemander 500 000 euros de prêt, je lui dis non, tant pis, je perds 1 million sur elle, mais sinon, je vais perdre 1,5 million demain. C'est ça le métier du banquier aussi, normalement, d'arrêter. On voit que le système-là n'est pas capable d'arrêter, parce qu'arrêter, ça veut dire détruire l'épargne d'une partie de la population. Donc, c'est pas possible. Donc, la sortie de crise, à mon avis, ne viendra absolument pas du côté du politique, c'est pas possible. Elle viendra du côté des prêteurs et des marchés qui, au bout d'un moment, ne vont plus faire confiance, comme on le voit de plus en plus. On voit bien que la confiance se désagrège de plus en plus. Enfin, on fout 100 milliards d'euros dans les banques espagnoles, la bourse, elle monte une matinée. L'après-midi, c'est fini, ça redégringole. Enfin, alors qu'il y a 2 ans, vous teniez 2 mois comme ça. On voit que c'est normal. Les marchés, ça fait 5 fois ou 10 fois qu'on leur fait le coup du... C'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez voir ce que vous allez voir, on est fort et costaud, il n'y aura plus de problème. 3 mois après, les problèmes recommencent. Alors, au bout de 5 fois, personne n'est dupe non plus. On arrête, on dit, ben, résolvez vos problèmes et on reviendra à ce moment-là.
Après, encore une fois, je ne connais pas bien le budget de la France, mais après, le jour où personne ne nous prête pour financer nos déficits, il y a quand même une sacrée décalage. Hein,
non, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que vous êtes arrivé un peu tard. Le budget français, là, il est d'à peu près 220 milliards de recettes, 300 de dépenses, donc vous avez 80 de déficits. Sur les 80 déficits, vous avez à peu près 60 d'intérêt de la dette. Donc s'il n'y a plus d'intérêt de la dette ou s'il y en a très peu parce que vous avez fortement restructuré, il vous manque 20 à 30 milliards. 20 à 30 milliards sur les 2000 de PIB du pays et sur les 15 000 milliards de patrimoine, ça va, ça se trouve, sans délire.
D'autant plus si on passe par une dévaluation, peu importe laquelle.
Oui, mais enfin en interne, vous dévaluerez pas grand-chose.
En fait, c'est un schéma planétaire dont vous parlez là. Mmh.
Le premier qui tombe fait tomber tous les autres. Hein, ça, mais, à peu près, oui.
Le cas de la Suède ou le cas de l'Argentine, à la limite, c'était des cas isolés dans un contexte de croissance mondiale.
Mmh.
Comment on est capable de se visionner dans un monde où la zone euro, l'Europe, et toute la zone anglo-saxonne, la zone de l'art, va être dans l'effet domino,
quoi.
Ça va faire un cycle de 2-3 ans. Quoi.
Bah, ça peut, parce que, enfin, je répète, là, votre souci, c'est l'épargne d'une petite partie de la population. Et le jour, elle aura disparu, elle aura disparu. Enfin, la plupart, c'est des retraités de 85 ans. Bon, vous allez leur dire qu'ils ont perdu une partie de patrimoine. Bah, il va pas être content, hein, papy. Mais enfin, bon, ceci étant, sur le reste de l'économie, ça change quoi? Ça va pas changer non plus des soins et demi. Je dis pas que c'est une promenade de santé, mais je dis que vous n'atteignez pas non plus le cœur du système économique si vous faites pas n'importe quoi. Non, c'est sûr, si vous faites des plans d'austérité drastiques, que vous montez la TVA, que vous détruisez la consommation, oui, ça va être très 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 compliqué, bien sûr. Mais à la base, votre problème, c'est un problème de... Même encore plus fondamentalement que ça, c'est un problème de répartition des patrimoines. C'est un problème de répartition des patrimoines. Vous me prêtez 1000 euros... tant que je vous les dois, ben je vous les dois, vous êtes content. Si je vous les rembourse, vous êtes très content. Si je ne vous rembourse pas, je suis très content, j'ai gagné 1000 euros, vous avez perdu 1000 euros. Ah ben voilà, c'est ça concrètement, une dette et une répartition de patrimoine. C'est ça. C'est, vous avez des prêteurs qui ne vont pas être remboursés. Des prêteurs qui courent en ce moment pour continuer à remettre sans arrêt au paquet. Parce que, vous savez, en reprêtant à l'Allemagne, en reprêtant aux États-Unis, en reprêtant. Ben, qui prête. Mais tant mieux, parce que tant qu'ils prêtent, ça continue. C'est très bien, et on n'a pas de problème. Mais juste, la dette, elle ne va pas atteindre le ciel.
Non, mais dans le prolongement de ce que vous dites, c'est comme si vous dites, voilà, l'écroulement du capitalisme, du modèle capitalisme mondial...
Je pense que j'ai dit non plus.
C'est une sorte de, presque de modèle de collectivité, donc presque un modèle communiste, quoi. Ça peut paraître...
J'ai vraiment du mal à m'exprimer. Vous savez, je vais vous dire ce qu'est un modèle communiste pour moi. Non, mais je vais vous dire ce qu'est un modèle communiste pour moi. C'est par exemple un modèle où on mutualise les dettes. Vous savez, quand on fait des eurobonds et qu'on mutualise les dettes, ça, c'est communiste. Et personnellement, je ne suis pas d'accord pour qu'on mutualise nos dettes. Et c'est par exemple. Donc, quand aujourd'hui, on nous dit qu'il faut mutualiser les dettes au niveau de l'Europe, j'ai tendance à dire, tiens, c'est un petit peu communiste comme idée, ça, quand même. De toute façon, ne rêvez pas, le jour où on mutualise les dettes en Europe, on va mutualiser les revenus aussi. Parce que, évidemment, ça va avec. Et donc, si on mutualise les revenus, ça va être des transferts énormes en Europe. Et donc, vous créez un pays, mais quelque part, une forme de pays, et c'est forcément une solidarité très, très, très importante. Mais je touche à rien, moi. Ah, moi, je touche à rien. Mais je remets rien en cause.
C'est assimilé à du communisme.
Je vois pas en quoi je n'ai jamais dit que c'était une très bonne idée d'aller attaquer les patrimoines. Effectivement, on va dire que le communisme pourra avoir cette forme d'idée-là. Je dis juste, c'est trop tard, c'est fait. Et on dit juste que quand il y a 2000 milliards de dettes, vous êtes engagé à rembourser 2000 milliards. Et que les 2000 milliards, vous savez quoi? On va les prendre à ceux qui ont 2000 milliards, pas aux autres. Et qu'il y a 2000 milliards d'épargne fictive.
Donc,
c'est de la comptabilité.
Que cette population, même si elle représente que 5 à 10%, oui, vont perdre une partie de leur patrimoine.
Exactement. Vous savez quoi? Eh ben, il fallait qu'ils votent un peu mieux quand même sur des gens qui auraient équilibré les budgets dans le passé, pas en vivant à crédit. Mais qui puis-je? Je ne suis pas politique, moi. Je regarde, je vous dis, tiens, quand l'Assemblée précédente...
Là, c'est un peu tiré par les cheveux, parce que les 10% de ce patrimoine-là, ils ne peuvent pas faire la pluie de beau temps. Il y a 90 qu'on votait pour les gouvernants qu'on a eu.
Vous pensez vraiment?
Ils sont pas masochistes.
Mais ils n'ont pas fait quoi? Mais je répète, hein, ils feront rien. Les élus vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais c'est pas grave, les marchés financiers vont couper. C'est le banquier. Le banquier va couper. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'endetté qui est en train de dire « faites-moi confiance ». C'est ça. C'est l'endetté qui est en train de dire « je vais faire un plan de croissance ». Vous allez voir, alors je vous signe des packs de croissance et de l'emploi et de la prospérité et du bonheur. Et des... Voilà, il y en a plein, ils vous le font. C'est l'endetté qui fait ça. Il arrive à un moment donné où c'est le banquier. Il va dire que vous êtes très rigolo, j'ai beaucoup ri depuis 5 ans, mais vraiment, désolé, on arrête, quoi. C'est ça qui va se passer. Ça, rien ne passera du côté politique. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'endormir les marchés. Ça fait 5 ans qu'il y a des sommets. Tous les 3 mois, c'est le sommet de la dernière chance, on va voir ce qu'on va voir. Ben, on voit qu'on a un sommet qui a eu l'utilité de faire un communiqué final. Alors, je vais mettre, je pense, mercredi, le communiqué du G20. La semaine dernière, c'est du pur bonheur. C'est du pur bonheur. C'est du foutage de gueule, quoi. Il n'y a rien. Et tout le monde dit, super, on a des élus là qui ont fait beaucoup de choses. Vous endormez les marchés parce que la seule solution serait de lever les impôts. Il y en a une autre. C'est de dire, je vais lever 2000 milliards d'impôts et je vais rembourser ma dette. Mais vous allez les lever sur qui, les 2000 milliards d'euros? Sur ceux qui ont 2000 milliards. Et donc sur les mêmes 10%. Et donc évidemment, vous ne le ferez jamais. Vous n'allez pas lever autant d'impôts. Je rappelle que la dette...
Les Italiens ont fait, non, il y a...
Pardon ?
15 ou 20 ans, un impôt sur le patrimoine. Je crois qu'il y a eu une taxe qui a été faite.
Ah oui, mais là, c'est pas de la taxe. Vous voulez, ça vous saisissait, là, à ce niveau-là, hein, vu les montants, 2000 milliards. Écoutez, je vais rappeler deux chiffres très simples. La dette française ramenée par ménage qui paye l'impôt sur le revenu. C'est 130 000 euros.
Par tête.
Par ménage, regarde le ménage. Déjà, je ne prends pas la moitié des ménages qui n'ont rien, ils n'ont rien. Là, ils ne paieront rien, ça c'est clair. Mais même si je veux lever, je ne vais pas lever sur ces 50% des ménages-là. Une bonne partie n'a pas grand-chose. Donc si je vais les lever, je vais les lever sur ceux qui ont du patrimoine. Donc je vais les lever, en gros, sur les 10% qui ont du patrimoine. Alors, juste pour situer, au niveau des ménages qui font partie des 10% les plus riches de la population, le seuil est à peu près 60 000 euros de revenus par ménage. Alors, je ne suis pas allé chercher non plus les grandes fortunes qu'à 40. Hein. C'est-à-dire déjà, pour faire partie des 10% les plus riches, on peut y être assez vite pour un ménage entier. Pour chacun de ces ménages, la dette représente donc plus de 600 000 euros. Vous pouvez m'expliquer qu'on va lever 600 000 euros sur ces 6 millions de ménages? Je pense que ça n'arrivera pas, en fait. Surtout qu'il va falloir les lever assez vite, puisque vous risquez d'avoir un problème de financement qui va vous obliger à rembourser une grande partie de la dette. Voilà. Mais soit vous leur levez 600 000 euros pour leur rembourser 600 000 euros que vous leur devez, c'est ça, très concrètement, puisque vous vous êtes endetté auprès d'eux, puisque par le passé, vous ne leur avez pas levé les impôts qu'ils auraient dû payer. C'est ça qui s'est passé. C'est qu'on n'a pas demandé assez d'impôts. Je caricature toujours un peu, excusez-moi, à Liliane Bettencourt, la pauvre. Mais comme on a décidé de ne pas lever assez d'impôts, bah, il a manqué de l'argent. Comme manquer de l'argent, on allait lui emprunter de l'argent, Liliane Bettencourt. C'est quand même une haute... Hein, c'est-à-dire que pour ne pas lui prendre son argent, on allait lui emprunter son argent.
Et bon, si elle est maligne, Liliane Bettencourt, elle a pas de dette. Hein. Elle n'a pas prêté, elle a de l'or, de l'immobilier...
Ouais, mais...
Si vous voulez, des forêts en Pologne, ou je sais pas quoi.
Il se trouve qu'elle a 500 millions d'euros d'obligations, la dame. Hein. Donc, elle a prêté, vous voyez, c'est un petit problème, c'est que vous avez énormément d'argent aussi, vous êtes obligé de le mettre quelque part. Et que c'est allé là. De toute façon, peu importe, il y est aujourd'hui. Ils sont, c'est 2000 milliards de dettes, il y a 2000 milliards de créances en face qui appartiennent à des personnes bien, bien physiques. Voilà, donc non, il n'y a rien de communiste dans mon idée, je le répète. L'Assemblée précédente a voté 600 milliards de déficit, donc elle a voté 600 milliards d'impôts, un de ces quatre. Ça fait 40 ans qu'on dit les impôts, on les lèvera plus tard. Il va arriver le moment, il va falloir les lever très vite, on va s'apercevoir qu'on ne peut pas les lever, et donc vous allez faire défaut, c'est ça que je dis. Et je dis, c'est vraiment malheureux d'en arriver là, Je vous rappelle que j'ai une position assez d'ayatollah en expliquant que je suis férocement contre le déficit public, qui est une forme extrêmement perverse d'impôts négatifs des plus pauvres vers les plus riches. Mais c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire quand on a dépensé le même argent deux fois, on ne peut pas dire après, trop tard. C'est-à-dire quand ça fait 38 ans que vous fumez deux paquets par jour, le jour où on vous dit j'ai une tache au poumon, monsieur, désolé, vous avez une tache au poumon, vous ne pouvez pas dire ah bah désolé, j'arrête. Ouais, mais c'est un peu tard pour arrêter, en fait, c'est fait. Et c'est ça notre drame. Donc non, c'est très triste d'en arriver là, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? C'est quoi les autres solutions? Ouais, il y a beaucoup dans les banques aussi, il y a beaucoup dans les hedge funds, il y a beaucoup, dans beaucoup d'endroits, oui, en partie, il est là.
Et deuxième chose, par rapport à ce que vous disiez là, c'est bien parce qu'en France, on a beaucoup d'efforts en positionnement de l'assurance vie et compagnie, que la situation après l'effacement des dettes sera moins catastrophique que dans d'autres pays où il y a moins d'efforts.
Non, c'est pareil pour tout le monde.
C'est
pareil pour tout le monde.
Et pour les pays où il y a moins d'épargne.
Mais en tout cas, pour tous les pays occidentaux, vous avez à peu près les mêmes choses. En plus, tout ça maintenant est mondialisé, tout ça est croisé entre pays. Donc voilà, on est sûr, au moins comme ça, il y a encore des problèmes plus importants le jour où il faut restructurer les dettes. Ouais, on verra comment ça va se dérouler. Mais oui, non, je suis relativement optimiste pour ce qui se passera après. Et je pense qu'à peu près tous ceux qui sont dans cette salle n'ont pas beaucoup de soucis à se faire si les choses ne sont pas trop mal gérées. Après, faut-il encore faire en sorte qu'elles soient plutôt bien gérées, et c'est en effet la question.
Schéma d'emprunt presque similaire à l'emprunt russe, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, tous ceux qui ont d'assurance vie.
Mais c'est exactement ça. Oui, ouais, enfin, en tout cas, dans les banques. Dans les banques, oui, une partie, oui.
On va sûr avoir la faillite un peu des banques, mais aussi surtout des assurances.
Non, c'est les banques.
Sur l'assurance, c'est une page importante sur l'activité de la société industrielle. C'est-à-dire que le jour où vous n'avez plus de l'assurance,
Faut pas avoir des choses apocalyptiques. Enfin, au niveau de l'épargne, faut rappeler qu'elle est très concentrée et donc la vaste partie de la population n'a pas de problème particulier. Le reste, c'est des hedge funds. 60% de la dette, notre dette est à l'étranger. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il va y avoir des réajustements de dette qui vont être. Non, ceux qui ont plus de soucis à se faire, c'est les Américains, en particulier tous ceux qui ont des. Enfin, les États-Unis qui ont un système de retraite par capitalisation qui vont difficilement survivre. Évidemment, par répartition, il y a des défauts sur un système par répartition. L'avantage, c'est qu'il ne fait jamais faillite, votre système. Il est plus ou moins fonctionnant sur l'économie, mais ne fait pas faillite. Alors qu'aux États-Unis, évidemment, leur système fera faillite. Bon, sans quoi, bah, s'ils ne sont pas trop bêtes, ils vont mettre un régime par répartition en place assez vite. T'es là où il y a du souci?
Si j'étais une fée, que j'avais une baguette magique et je te nomme président de la République, qu'est-ce que tu proposerais comme solution
De solutions pourquoi?
De solutions par rapport à la situation en France.
Non, mais vous savez, très concrètement, au-delà de ça, c'est qu'est-ce qui se passe politiquement? Je pense juste que ce qui se passe politiquement, et pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la politique du. Comment dire ça? Gagner du temps. Gagner du temps, c'est ce qu'ils font tous.
Ouais,
mais il n'y a pas.
Tu fais quoi?
Je ne suis pas persuadé qu'il y ait grand chose à faire en termes démocratiques à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas dire quoi? Tu vas faire une loi pour expliquer que tu vas tondre de 10%, enfin de X% t'es les gens les plus riches. Tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, le système est tellement engrangé sur de mauvaises bases qu'il va se décomposer tout seul, et très vite. À ce niveau-là. Donc ce sera 3 mois. Et la solution, elle sera la même. Elle sera faire disparaître cette épargne-là. Mais démocratiquement, je ne vois pas comment on arrive à faire disparaître une épargne-là. Il ne faut pas la laisser se constituer. C'est pour ça, je répète, quand je suis contre la notion de dette publique, c'est que la dette publique implique qu'il y a de l'épargne fictive. Puisqu'on a tous notre épargne, mais il se trouve qu'on est tous contribuables. Et que pas normalement une personne dans cette salle ne se dit tous les matins, mon Dieu, c'est malheureux, j'ai sur ma tête 130 000 euros de dettes qui sont faites par l'État, comment je vais faire? Je vais bien la mettre de côté, je ne vais pas y toucher à ces 130 000 là parce que je sais que l'État va venir me les prendre un jour. Personne ne le fait. Et ben d'accord, vous avez 100 000 euros d'épargne, vous vous dites j'ai 100 000 euros d'épargne. Donc, alors que une partie, en tout cas la partie qui correspond aux 130 000, est fictive, c'est ce que j'appelle de l'épargne fictive, parce qu'elle va disparaître à un moment ou à un autre, puisqu'elle correspond en face à de la dette qui, elle, va disparaître aussi d'une façon ou d'une autre. Donc c'est extrêmement dangereux de faire ça. Donc il faut éviter de laisser ces dettes se augmenter autant, parce que vous ne pouvez pas les gérer après. Vous ne pouvez pas démocratiquement les dégonfler. Tout comme vous ne dégonflez pas facilement une bulle immobilière comme celle qui est actuellement. Et vous n'allez pas dire tout d'un coup, je vais diminuer par deux le prix de l'immobilier. Vous vous rendez compte que vous ruinez une partie de la population, c'est trop tard. Il faut vraiment faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà, donc en termes politiques, vous ne trouverez jamais la moitié des députés pour l'expliquer. Mais ça finira par défaut, mais n'importe qui sera au pouvoir. Mais je ne prendrai pas la décision parce que c'est quand même une drôle d'idée de penser qu'on choisit de faire défaut. Oui, alors peut-être en Russie, quand il y a une révolution, mais c'est pas vous qui décidez de faire défaut, c'est votre banquier. Je ne connais pas une entreprise qui s'est dit, bon, mon banquier, là, il est prêt à me prêter 1 million, non, je ne vais pas les prendre à faire faillite, tant pis, quoi. Et tant qu'on vous prête de l'argent, bah, le jeu continue. Donc tant qu'il y a des prêteurs obligataires, le jeu continue, et à rigueur, tant mieux. Mais l'ennui, c'est que derrière, vous augmentez la dette, et donc vous augmentez les pertes pour vos prêteurs en face. Et comme vous ne décidez pas du jour au lendemain, tiens, je vais faire défaut parce que ça me fait plaisir, vous faites défaut parce que l'Argentine fait défaut en 2001, parce que le FMI lui refuse une tranche supplémentaire. Bon, bah, terminé. Dans ce cas-là, quand le banquier coupe les vivres, vous arrivez à une restructuration de dette. Oui. Ah mais c'est pas indolore parce qu'en Grèce, on a refusé de la laisser faire défaut bien tranquillement en mai 2010. Non, en mai 2010, la Grèce elle avait une dette importante qui était 100% privée, détenue par des investisseurs privés, des banques en particulier. Le schéma normal aurait été de lui laisser faire défaut et les 75% de pertes qu'elle a fait là, bah, c'était de les faire à l'époque sur toute la dette. Et à ce moment-là, effectivement, elle irait beaucoup mieux. Elle aurait résolu sans problème, la Grèce. Ce qui est fou, c'est qu'elle a fait défaut et qu'elle doit encore autant d'argent qu'avant le défaut aujourd'hui. Parce qu'une fois qu'elle a fait défaut, on lui a reprêté à peu près toute la différence pour recapitaliser le système bancaire et pour plein de raisons. Mais évidemment, à partir du moment où on s'est mis à prêter de l'argent à la Grèce, on se rend bien compte que vous rendez beaucoup plus difficile un défaut, puisqu'un défaut entre États, à mon sens, ça n'a jamais été fait encore. Alors, personne n'est assez fou pour aller dans ces situations-là. Vous imaginez bien que si la Grèce se met à dire à l'Allemagne qu'elle ne va pas la rembourser, ça va être sympa, parce que quand vous le dites aux banques allemandes, bon, ça fait pas plaisir, mais déjà, c'est un problème entre un État étranger et vos banques privées. Alors même si ça coule un peu vos banques, dans ce cas-là, ouais, en tout cas, vous ne réagissez pas de la même façon que quand c'est l'État grec qui a promis à l'État allemand de le rembourser et qu'il ne remboursera pas. Alors si on est dans une Europe très fédérale où tout le monde est solidaire et que tout va bien, c'est très bien. Hein, je crains que ce ne soit pas la réalité. Et ça, c'est un douai. Et vous avez entre-temps la Banque centrale qui essaye de faire un peu tampon et qui rentre dans le jeu en se mettant de plus en plus en danger. Donc oui, on est en train de cumuler les âneries pour gagner du temps, c'est ça qui se passe très concrètement. Et on gagne du temps, bon bah tant mieux, j'aime autant, ça évite les problèmes, mais ça ne fait que les différer. Je crains que plus ça les diffère, plus il y a des conséquences qui soient fortes. Et bien évidemment, je reprends mon exemple grec, un défaut grec en 2010, ça aurait fait du dégât sur les banques. On aurait recapitalisé, on aurait trouvé du pognon, c'était petit encore la Grèce. Mais il est bien évident qu'un défaut grec aujourd'hui, qui doit de l'argent non plus à des banques privées, mais 50 milliards à la BCE, 200 milliards aux autres pays européens, ça a des conséquences qui sont encore beaucoup plus fortes que les initiales. Parce que là, vous êtes en train, cette fois, de vous flinguer toute coopération politique en Europe. Donc on a gagné 2 ans. Vous avez gagné surtout des emmerdements supplémentaires à un niveau de plus en plus élevé. Bon, alors peut-être qu'un sursaut de lucidité fera que tous les gouvernements vont avancer vers des solutions beaucoup plus coopératives. Mais j'y crois assez peu pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, si vous vous rappelez ce qu'on disait sur l'Europe dans les années 45 et ce qui se passe maintenant. Vous étiez dans un système très coopératif à l'époque, et aujourd'hui le système est extrêmement individualiste. Et voir qu'on n'a pas pu régler le problème grec... Enfin, c'est quand même énorme, quoi. La Grèce, elle avait 300 milliards d'euros de dette. Elle peut en supporter 50 ou 80. Donc, il fallait effacer 200 milliards d'euros à la Grèce sur toute l'eurozone, en se partageant ça entre des pays qui se portaient pas trop mal à l'époque. Donc, il fallait absorber pour la France, j'en sais rien, quoi, 70 milliards, 80 milliards d'euros de pertes qu'on aurait fait pour aider la Grèce. Donc, soyons honnêtes, ça aurait été 80 milliards de dettes en plus. Donc ça aurait mis le déficit sur le même niveau que 2009 et 2010 en 2011 pour résoudre le problème grec. On ne l'a pas fait parce qu'il n'y a aucune solidarité avec la Grèce et qu'on n'a pas voulu lui donner 1 euro. C'est ça la réalité, c'est qu'il n'y a aucune coopération en Europe. Il y a tout ce qu'il faut comme discours, mais comme capacité à ouvrir le portefeuille, il n'y en a aucune.
Il y a deux choses. C'est que déjà, l'Europe s'est fondée sur la libre concurrence, le libre marché. Concurrence veut bien dire non-coopération par essence. Donc déjà, les prémices de l'Europe sont faussées.
Elle n'a pas été fondée là-dessus. Elle a été refondée dans les années 80, on va dire. Ce que j'appelle les pères destructeurs de l'Europe.
Elle est fondée déjà sur la concurrence. Donc la concurrence que l'aléa moral qui serait la faillite de la Grèce ne soit pas acceptable dans cette condition-là.
Non, mais j'entends bien, mais si vous voulez plus largement que ça, la mort de l'euro est inscrite pour moi dans le traité de Maastricht qui dit 1, on fait une monnaie unique, 2, j'interdis toute coopération et toute solidarité entre États en Europe. Il faut choisir. Vous faites une monnaie unique, il y a forcément des transferts massifs entre États et des transferts budgétaires massifs. Si vous ne voulez pas de transferts entre États, c'est tout à fait possible, il ne faut pas faire une monnaie, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Ça, c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. Elles sont capables, hein. Ah oui, ça, la capacité à faire pire, et quand même, vous inquiétez pas, hein, on n'a rien vu encore. Hein. Oui, on recommence. On ne sait jamais, des fois. Faut essayer. On va faire plus gros, pour être sûr. Enfin, peut-être qu'on a fait trop petit. Moi, je me dis juste, des fois, heureusement qu'ils ne sont pas médecins, hein, les gens. Vous imaginez, le truc ne marche pas, c'est pas grave, j'en mets plus encore, quoi, dans le malade.
Oui, on rigole beaucoup, mais est-ce qu'ils ont peut-être pas maintenant ils se rendent compte aussi des choses que vous l'avez dit.
Peut-être.
Est-ce qu'il n'y a pas certains points de contingence qui sont mis en place ou est-ce qu'il n'y a pas de...
Mais peut-être, vous le verrez vite, mais j'attends de voir, moi, de la vraie coopération en Europe. Dernier traité, là, qui a un an où on nous promettait, vous allez voir ce que vous allez voir, on va remettre les comptes à l'équilibre. Bon, effectivement, ils ont signé un papier en disant que les comptes allaient être à l'équilibre. Bon, ils ont signé un papier, quoi, super. So what? Bah oui, mais enfin, les comptes à l'équilibre, c'était 2012, non, 2013, 2014, on va voir peut-être une année de plus encore, mais ça ne sera jamais à l'équilibre, jamais. Donc on a signé un papier, quoi, point final. Qu'est-ce qu'il y aura ce week-end? Ça va être intéressant. Et j'ai aucune idée de... est-ce qu'il y aura un clash énorme, possible? En tout cas, un échec complet du sommet. Parce que, de toute façon, je pense qu'il n'y a strictement aucune volonté réelle d'aboutir à quoi que ce soit. Ou est-ce qu'ils vont avoir l'intelligence de nous pondre encore un beau petit traité avec des belles promesses mais j'ai du mal à voir ce qu'ils vont faire. Enfin, nous promet quoi? Nous promet l'union bancaire maintenant. Ouais, super perspective, quoi. On va unir les banques en faillite. Donc c'est vrai que ça va... Non, mais c'est vrai que si on compte sur... je vais pas dire de nom. Enfin, si on compte une banque française en difficulté pour aller sauver les banques espagnoles, écoutez, on va voir. Hein. Vas-y, fume, quoi. Mais c'est un peu l'idée. Union fiscale, de toute façon, qui est une conséquence. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un taux de TVA unique en Europe, et puis on va tout réaffecter, et puis on va envoyer ça aux pays qui en ont le plus besoin. L'idée allemande, donc un président élu au suffrage universel direct pour l'Europe. J'ai du mal à croire qu'ils ont envie d'avoir un président italien ou espagnol, les Allemands. Mais je sais pas pourquoi, j'ai une idée comme ça, où je me dis, tiens, ça doit être du vent, leur truc, quand même. Parce que je vois pas la France et l'Espagne et l'Italie dire ouais, ok, bien sûr, on va faire ça, puis on va tout transférer au niveau fédéral. Et de toute façon, quand on regarde même ça avec un peu de recul, enfin, je sais pas, c'est assez fascinant, quoi. On n'a pas de solution chez nous. Les Espagnols n'ont pas de solution, les Italiens n'ont pas de solution. Mais on va se finir, vous allez voir, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Je vois pas ce qu'on peut faire à quoi qu'on peut pas faire tout seul, déjà. Mais ça, on ne le sait jamais. On vous dit juste qu'on pourrait résoudre la crise et le fédéralisme. Mais ça veut dire quoi, très concrètement? Et ça veut rien dire. Et pour le moment, il n'y a eu aucune trace. Alors, ça va être intéressant de voir s'ils arrivent à faire un sommet où ils vont promettre déjà d'écrire quelque chose, mais d'écrire quoi? De toute façon, vous partez d'un budget aujourd'hui qui fait 1% du PIB de la zone. Les États-Unis, c'est 25% du PIB, hein, le budget fédéral. Ils vont dire quoi? On va doubler le budget européen? Ce qui serait déjà comme une goutte d'eau, hein, parce que ça, 2%, c'est juste comique. Ça, vous verrez qu'ils ne bougeront pas. Ça fait 2 ans qu'ils discutent pour baisser le budget européen. Je ne sais pas si vous l'avez vu, pour faire des économies au niveau des États. Donc on est bien parti pour avoir une Europe fédérale. Personne n'en veut, réellement. Mais l'idée va être justement de continuer à faire croire aux banquiers, donc nos marchés financiers, que bien sûr, ils peuvent avoir confiance en nous et qu'on les remboursera et qu'on fera tous les efforts. On verra. Mais ça peut durer encore un an ou deux, cette blague, hein, au point où ça va. Mais sauf qu'il y a des tensions qui sont quand même... phénoménal. Regardez ce qui se passe en Europe. L'Allemagne, ça fait un an qu'elle réfléchit pour essayer d'avoir la présidence de l'Eurogroupe. Donc, on va dire en gros, les conseils des ministres des Finances européens, hein, ils se battent un peu. C'est la semaine dernière, on a appris que non, la France, finalement, présentait Moscovici. Pour les Allemands, Enfin, je pense que si vraiment on veut leur dire, mais cassez-vous, ça, c'est le bon message, quoi. C'est non, vous n'aurez rien. La Banque centrale, je rappelle que l'Allemagne a une voix sur 17 à la Banque centrale. Hein. Y a pas de, elle a le même poids que Malte, très concrètement, l'Allemagne. Hein. Donc c'est déjà un système où bonjour le fédéralisme, où c'est un pays, une voix. Donc ça, déjà, elle n'a pas la présidence. On est en train de lui dire que l'Eurogroupe, elle n'aura pas la présidence. Si on lui dit juste qu'elle aura juste les dettes à payer pour les autres, c'est un partage peut-être qu'on va trouver sympathique. Et je comprends que la France et l'Espagne et l'Italie se mettent d'accord là-dessus pour dire « Ce serait quand même bien que les Allemands y payent, en fait. » Bah, peut-être qu'ils accepteront, peut-être qu'ils accepteront pas. Et la question, elle est là, en fait. Et la question, elle est là. Et j'ai pas l'impression qu'ils soient partis pour payer. Donc soit c'est vraiment, c'est des fins négociateurs et ils vont céder. Mais sauf que, alors qu'en effet, les Allemands payent beaucoup en Europe depuis longtemps, je pense que, un, les esprits sont beaucoup moins mûrs, et que, deux, ils payaient pas grand-chose quand même par rapport à ce qu'il faut vraiment payer maintenant. Et je suis pas sûr qu'ils aient envie de payer pour les Grecs ou les Espagnols et même les Français. Oui ? Oui, sans doute aussi. Sans doute aussi, aussi. Hein. Ouais, donc
c'est uniquement pour se mettre ensemble, d'accord, c'est génial, on est tous ensemble, mais...
Ouais, mais c'est...
Nous, on s'est réunis, mais c'est pour dialoguer avec vous. Je pense que si c'est uniquement... on va se réunir dans un bar, il n'y aura pas autant de monde.
Non, ça dépend, hein. Un soir, sur des matchs ou un truc comme ça, il peut y avoir du monde. Oui, dans votre question, le fédéralisme, pourquoi faire ? Est-ce que c'est un objectif ou... Il y a une forme d'objectif aussi, en tout cas surtout pour une génération qui n'est plus vraiment celle au pouvoir d'ailleurs, qui était la génération un peu précédente de, voilà, issue de la guerre et de, bah oui, c'est quand même un objectif aussi d'aller fédérer, d'aller coopérer en Europe. Mais on est bien d'accord qu'il faut aussi qu'il y ait un intérêt. Le problème, c'est que depuis les années 80, on a surtout une Europe qui sert le financiarisme et donc un modèle qui est fondamentalement vicié et qui est en train de couler. Et qui n'a pas un modèle de vraie coopération, de vraie solidarité, de vraie... C'est ça qui manque, il manque des projets, il manque...
C'est ma vision, mais peut-être que aussi parce que le secteur financier a été le premier à profiter justement de ce qui a été mis en place, parce que justement derrière, il n'y avait pas de projet.
Oui, sans doute aussi, et il n'y a pas de projet. Attendez, quand ils ont écrit et quand ils ont fait les traités, il y avait un projet très clair en face. Hein, et l'expérience a montré que jusqu'en 2007, il avait plutôt bien marché. Hein, enfin, en tout cas, un modèle de développer la sphère financière, développer l'hyperspéculation, développer les marchés de capitaux et enrichir une petite fraction de la population, ça a plutôt bien marché quand même. Hein. Juste, malheureusement, ça a un peu tendance à entraîner la faillite totale du système.
Il n'y a pas tout simplement la barrière de la langue qui fait que...
Oui,
ils ne se comprennent pas et donc il ne peut pas y avoir... Angela Merkel, moi je ne la comprends pas, donc je sais, alors elle va beau vouloir dire tout ce qu'elle voudra, je ne peux pas comprendre ce qu'elle dit. Je ne suis pas capable d'être...
Oui, mais...
La séparation, elle est là.
Oh, mais l'aspect linguistique est sans doute aussi largement sous-évalué, en effet. Est-ce qu'on peut faire un pays avec plusieurs langues ? Bon, la Belgique montre que c'est pas tip-top, le Canada montre que c'est quand même pas non plus des modèles
formalistes.
Oui, la Suisse, qui est un cas un peu particulier, qui est quand même confédéral, qui n'a pas poussé un fédéralisme très loin, et puis qui a une petite population au milieu de l'Europe. Mais enfin, bon, à 500 millions d'habitants, c'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, mais peut-être, c'est peut-être un modèle aussi à suivre, ça marche pas si mal, bon, on peut regarder ce qu'ils font. Enfin, ceci étant, ils n'ont pas cherché non plus à faire la Confédération Suisse en 15 jours. C'est-à-dire, c'est ça dont on souffre beaucoup maintenant, c'est qu'on nous explique qu'on veut construire un gratte-ciel en 3 mois. Bah ouais, enfin, si arriver au 10e étage, ça s'écroule, faut peut-être pas chercher pourquoi aussi. Il n'y a aucune prudence dans ce qu'on fait. C'est juste une fuite en avant pour pas tomber, parce qu'on a bien compris que si on freine, on va tomber. Mais face au mur, il va falloir choisir de où prendre le mur ou freiner. Une dernière petite question, et puis après, je change d'assistance.
Je trouve un peu optimiste quand même.
Ah, bah, Phil, il fallait savoir. Alors, d'un coup, je suis pessimiste, d'un coup, je suis optimiste.
Du coup, j'aimerais bien savoir autre chose. Quand on voit l'Argentine, ça a quand même fait basculer des pans entiers de la population dans la précarité.
Pendant un an, et puis depuis, elle a eu une croissance phénoménale. Alors, pour des raisons sans doute un peu particulières, mais si tu ne l'as pas lu, je t'incite à aller voir le petit mot sur l'Argentine que j'ai fait, où tu as des courbes sur le PIB de l'Argentine, et ça fait rêver au bout d'un an. Hein. Ça, quand t'enlèves. Moi, je suis persuadé que si la Grèce sortait de l'euro, elle en baverait pendant un an ou deux, et qu'après, elle aurait un développement avec une drachme sous-évaluée qui nous permettrait d'aller passer des vacances paradisiaques en Grèce à 200 euros. Sympathique pour son économie et son tourisme, même si elle avait derrière une importation. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir... Un pays ne peut pas vivre avec la monnaie de notre pays. L'euro pour la Grèce, ça revient à ce qu'elle est comme monnaie le marque, et ça revient à avoir une paire de sabots, 4 pointures en dessous de ce qu'il vous faut. Bon, bah, vous avez très mal aux pieds, et puis vous les gardez plus, vous avez mal aux pieds, et puis au bout de 2 ans, vous vous roulez par terre, et au bout de 3 ans, il y a la gangrène qui arrive. Quoi. Et très concrètement, bah, je conseille d'enlever les sabots dans ce cas-là, mais bon, a priori, ils ne sont pas décidés, donc c'est très bien. Et a priori, je pense qu'en effet, la Grèce ne sortira pas de l'euro, mais c'est probablement l'euro qui sortira de la Grèce par explosion. Mais il y a quand même maintenant une mythologie, en tout cas on a mis une espèce de pseudo-honneur des peuples, dans surtout faut garder la monnaie. Et on voit très bien d'ailleurs qu'il y aurait 2 monnaies dans la zone. Je sens bien encore que la France chercherait politiquement à avoir la même monnaie que l'Allemagne, être dans la même zone que l'Allemagne, ce qui est une absurdité économique. Enfin, il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'on ne veut pas reconnaître que l'Allemagne serait plus puissante au point de vue économique que la France. Mais la nuit derrière, ça veut dire c'est du chômage et c'est des gens qui souffrent, quoi, très concrètement, pour un pseudo-orgueil national. Ah, il y a vraiment la dernière ? Parce qu'il y en a qui ont blog en rentrant, là.
Oui, c'est une question sur les CDS. On avait déjà eu la discussion d'une réunion précédente.
Oui.
Où les CDS n'avaient pas l'air de trop vous inquiéter tant que ça. On voit depuis, en gros, le débat sur la question de la Grèce, sans savoir si finalement elle faisait défaut, elle ne faisait pas défaut.
Oui.
Et puis tourner autour de ça, et visiblement la question était de savoir si vous avez joué les CDS ou pas.
Hmm. Mais sur un mois, c'est fini, ça.
Alors, pour beaucoup, on commence à dire que c'est un élément qui peut être majeur et justificateur.
Mais ça dépend sur quoi. Enfin, on parlait de la Grèce, et en effet, l'expérience a montré que, 1, il y a eu défaut, que, 2, il y a eu activation des CDS, et que, 3, ça n'a pas coûté grand-chose, parce que, somme toute, il n'y en a pas des masses sur la Grèce. Oui, ce serait plus ennuyeux sur le reste des banques, enfin, entre vous et moi, vu ce que représentent les CDS par rapport à tout ce que représente le reste, et qu'il va avoir des problèmes sympathiques aussi, c'est quand même pas le premier des soucis. Bien, pour les banques, une perte forte sur les obligations qu'elles ont dans leur actif, c'est aussi très ennuyeux. Mais je suis d'accord, enfin, pour le reste, en cas de gros PEPA, oui, les CDS rajouteront encore dans la tourmente, mais ceci étant, ça peut se régler assez simplement, les CDS, puisque les CDS, c'est une assurance, quelque part, hein, entre... si au pire ça va pas, vous dites que l'assurance, désolé, je vous délite vos obligations, il n'y a plus d'obligation d'assurer quoi que ce soit. Donc quelque part, vous avez perdu la prime, vous n'êtes pas remboursé, voilà, il n'y a pas le problème de l'obligation, vous êtes obligé de rendre une somme très importante parce qu'il y a eu un engagement très important. Là, vous n'avez pas eu un engagement très important à la base, vous avez une banque qui a payé 10 pour percevoir 100 en cas de faillite de l'Espagne, on lui dira qu'elle ne recevra rien en cas de faillite de l'Espagne et qu'elle a perdu 10 le coup d'avant, mais tant pis, ça fait belle lurette que c'est passé en charge dans ses comptes. Mais bon, voilà, elle aura à subir éventuellement la faillite de l'Espagne, mais le problème c'est bien la faillite de l'Espagne, c'est pas le CDS qui marche ou qui marche pas, quoi. Messieurs, dames, juste une petite question pour finir, est-ce que par hasard il y aurait parmi vous quelqu'un qui serait très intéressé par la problématique des séparations des activités bancaires, banque de dépôt, banque d'investissement, qui bosserait un peu là-dedans ou non, pas particulièrement exactement, non, s'il y en a un éventuellement pour discuter après Après, pas plus tard que maintenant. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite de très bonnes vacances.